France Culture.
Bonsoir Patrice Lecomte.
Bonsoir.
Dans les épisodes précédents, nous avons surtout parlé cinéma. Dans ce cinquième et dernier épisode, intitulé « L'art de la fugue », je vous propose d'évoquer la place du créateur que vous êtes dans la société et comment vous réussissez à raconter vos histoires en utilisant des moyens d'expression très différents. Vous nous avez raconté, lors du premier volet de l'émission, votre expérience de dessinateur au journal Pilote. Vous avez aussi signé, on va le voir, un film d'animation et un documentaire, et vous êtes l'auteur de nombreux livres. Pas seulement des livres d'ailleurs sur le cinéma ou sur votre vie, on vous doit des bandes dessinées, des récits illustrés, un recueil de vos chroniques pour la radio et des romans. Vous en avez publié 5, je crois, dont les femmes aux cheveux courts, Rivabella et plus récemment Louis et Lubic. Qu'est-ce qui vous pousse à tester ces nouvelles formes artistiques où on ne vous attend pas forcément? C'est à chaque fois une certaine prise de risque. Celui, par exemple, de s'entendre dire « Ah oui, bon, le réalisateur débronzé fait de la littérature. » En France, on aime bien mettre les artistes dans des cases.
Oui, c'est vrai que c'est plus amusant d'échapper à toute forme de tiroir étiqueté, bien sûr. Et les romans, c'est venu de manière très inattendue. Je connaissais le directeur d'Albin Michel, on avait fait connaissance en vacances, enfin bon, Richard Ducousset, et on déjeune un jour ensemble, mais il y a longtemps déjà, et il me dit, tu sais Patrice, j'aimerais bien, un jour tu devrais écrire un roman. Puis voilà, il laisse passer ça comme il m'aurait dit, il fait beau n'est-ce pas? Mais bon, je pense qu'il était assez finaud, assez malin, il savait que cette proposition qui n'en était pas une, mais qui était une suggestion, aller rester dans un coin de mon disque dur, ce qui a été le cas, et donc j'ai attendu, je m'y suis pas mis aussitôt, il fallait que ça mûrisse, c'est un peu cette petite phrase faussement anodine qui m'a donné l'autorisation. C'est-à-dire que de moi-même, j'ai souvent fait des trucs qui m'ont été suggérés. De moi-même, je pense que je ne serais tout seul jamais dit, ah tiens, je vais écrire un roman.
Jamais autorisé.
Non, parce que je... Il y a des choses qu'on n'ose pas faire, quoi. Enfin, c'est assez curieux. Et en tout cas, donc, je me suis mis dans le plus grand secret. Il y a que moi qui étais au courant. Je me suis mis à écrire ce premier roman qui s'appelait Les femmes aux cheveux courts, et je l'ai amené à Richard Ducousset et il l'a lu très vite. C'est des histoires merveilleuses, ça. Quand on pense à tous les gens qui proposent des manuscrits et qui enfin, bref. Donc, moi, j'ai eu de la chance. Et du coup, c'est m'a dit, je te remercie parce que c'est exactement ce que j'attendais de toi. Et on publie ça. Et donc, ça a été le premier roman publié.
Et ça a été un succès,
puisque ça a été un succès. Oui, mais peut-être parce que un premier roman écrit par un type qui est connu pour autre chose. Tiens, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça... Donc, je dis pas que le succès était frelaté, mais c'était un succès.
Quand on retrouve le charme et la fantaisie de certains de vos films,
quand une idée me trotte en tête, je ne me dis jamais ça. Ce serait quoi? Un film ou un roman? Jamais. Je sais pas pourquoi, mais il y a des choses qui immédiatement me semble être du domaine du ressort du roman, de l'expression romanesque, et puis d'autres choses qui me semblent être des films, mais je ne saurais pas expliquer davantage. En tout cas, je n'ai jamais écrit de roman dont je me dise « j'en ferais bien un film ». Mais peut-être parce que je suis pour le tri sélectif, mais je ne suis pas pour le recyclage.
Et quand vous êtes devant votre ordinateur, est-ce qu'écrire une histoire littéraire, donc un roman, c'est plus facile parce que vous avez déjà écrit des scénarios? Ou au contraire, ça vous paraît
Non, c'est ni plus facile. De toute façon,
c'est un autre
exercice. Écrire est une chose très plaisante, mais c'est laborieux. Il ne faut pas que ça apparaisse comme étant quelque chose de laborieux. Donc la légèreté, l'imagination, la fantaisie, ce mot qu'on a oublié, hélas, la fantaisie, ça c'est merveilleux. C'est des choses assez simples, quoi. Si on se pose trop de questions, un peu dans tous les domaines, on n'arrive plus à rien faire. Quand j'écris un roman ou un scénario, bon, des questions je m'en pose, oui, bien sûr, quand même. Mais pas trop, parce qu'on se trouve...
Vous voulez garder une certaine fraîcheur dans l'inspiration.
Oui,
vous ne faites pas de plan.
Les romans que j'ai écrits, dont un prochain qui va sortir bientôt, qui porte un joli titre. Je vous dirai plus tard. Et les romans que j'écris, je sais comment ils démarrent, puisque c'est l'idée du départ. Je sais où j'ai envie d'arriver, mais je sais pas du tout les chemins que je vais emprunter. Mais pas du tout. C'est pas une idée en entraîne une autre. On n'écrit pas des chapitres comme on écrirait Marabout bout de ficelle. Bien sûr que non. Il y a une grosse part d'improvisation pour tous les romans que j'ai écrits.
C'est ce qui en fait le charme aussi. C'est-à-dire finalement, vous essayez de vous surprendre.
Ben, c'est-à-dire que j'écris des choses que j'avais pas prévues. Il y a des idées qui se mettent à germer, une idée en entraîne une autre. Il faut être un peu comme une éponge, j'allais dire. Enfin, il faut être ouvert, attentif, à l'écoute. J'allais dire à l'écoute de sa propre imagination, bien sûr, mais pas que. Il y a un autre truc, c'est que je me suis... Enfin, ça fait des années que je ne me suis pas dit « Ah, qu'est-ce que je pourrais bien faire comme film ?» ou « Qu'est-ce que je pourrais faire comme roman ou comme pièce de théâtre ?» C'est-à-dire, je ne me mets pas devant un clavier inerte en disant « Bon, alors là, ce serait bien que j'écrive une pièce de théâtre. Ah, oui, bon, alors ce serait quoi ?» Non, il faut que ça... Il y a quelque chose de plus fragile, hein, ça c'est sûr, mais...
De plus souterrain, peut-être.
Ouais, il faut que j'attende que ça me tombe dessus, vraiment.
Vous parliez de fantaisie tout à l'heure. Est-ce qu'on peut parler des écrivains, des romanciers qui vous ont inspiré? Je crois qu'il y a... On avait parlé dans un précédent épisode de Simenon et de Modiano, mais il y a aussi Queneau, fantaisie, Jean Echenoz, Pierre Lemaître, Douglas Kennedy et Paul Auster.
Oui, bien sûr. Les noms que vous avez cités, c'est ma nourriture. Ça l'a été, ça continue à l'être, bien sûr. Parce que on avait parlé de Maurice Leblanc aussi quand j'étais adolescent. Mais j'ai relu des Arsène Lupin et ça a continué à me plaire vraiment. Alors que j'ai adoré Boris Vian quand j'étais adolescent, comme tous les adolescents. Et là, j'ai eu la trouille de relire parce que je suis pas sûr que ça continuerait à me plaire de la même manière. Donc je n'y touche pas. Mais Raymond Queneau, je l'ai relu régulièrement et le charme et l'émerveillement et la fantaisie sont toujours là, bien sûr.
Un petit aparté, avec Paul Auster, vous avez adapté, vous faites une tentative d'adaptation de Monsieur Hir.
Oui, ça c'était vraiment formidable. J'ai adoré. Bon, ça a rien donné, mais il a été question. C'était vachement avancé, le projet. Il était question de faire un remake, ou une nouvelle adaptation, ou un remake, appelez ça comme vous voudrez, de Monsieur Hir aux États-Unis, d'un film américain, et qui se passerait de nos jours, etc. Et le producteur américain qui m'avait proposé ça connaissait bien Paul Auster, et il me disait est-ce que ça vous intéresserait d'écrire cette adaptation avec Paul Auster? Comment ça? Mais vous rigolez, bien sûr que ça m'intéresse. Moi, j'avais lu beaucoup Paul Auster, et je me suis... Alors, ce qui me sauvait un peu la vie, c'est que Paul Auster parle français comme vous et moi, donc ça, c'était quand même... Parce que s'il avait fallu travailler à deux, et que moi, avec mon anglais, qui est moins bon que son français, ça aurait été plus laborieux, évidemment. Et donc, on a fait des séances de travail, et on s'est vu beaucoup aux États-Unis ou à New York ou bien ici. Et on a avancé beaucoup, beaucoup. On a écrit un scénario que j'aime beaucoup, qui s'appelle Homeland. Et j'avais rencontré des comédiens. Imaginez-vous. J'avais rencontré John Turturro. Un soir à New York, avait lu le scénario, qui voulait le faire, qui trouvait ça très bien qu'un cinéaste français s'intéresse à lui. On avait été à Berlin pour le voir parce qu'il tournait à Berlin. J'avais rencontré John Goodman, dont je voulais qu'il fasse le flic, l'inspecteur. Et puis j'avais rencontré pour faire Sandrine Bonner, enfin pour faire la jeune fille d'en face, Alice. J'avais rencontré Winona Ryder. Donc je me disais, je vais faire un film avec John Turturro, qui faisait Monsieur Hir.
John Goodman
et Winona Ryder. Et ça, alors, il y a des films qui sont tombés à l'eau. Et franchement, je me dis, bon, bah, après tout, c'est peut-être que... Non pas, c'est bien, mais peut-être c'est aussi bien que ce soit tombé à l'eau. Mais celui-là, ça, franchement, ça m'énerve. parce que je le voyais bien, le film, et il était très différent de Monsieur Hir. C'est pas du tout un copier-coller de... c'était un autre film.
Et puis ça s'est pas fait.
Et puis ça s'est pas fait, parce que... un cinéaste français qui vient tourner aux États-Unis, il y avait un coproducteur, Philippe Carcassonne, qui produisait depuis la France. C'était peut-être le montage financier était trop bizarre. Je sais pas pour moi, c'est ça a capoté.
Bien, on va essayer de changer d'univers. En 2012, vous êtes lancé dans une nouvelle expérimentation, le film d'animation. Hein, c'est le magasin des suicides, d'après un livre de Jean Tellet. Qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet, qui, je rappelle, quand même, c'est de faire un film joyeux sur le suicide. C'est un beau challenge.
Oui, c'était un film de pur humour noir, mais qui était un film assez rigolo quand même. Quand le producteur Gilles Podesta m'avait proposé de faire ça, il me dit j'ai pris une option sur le bouquin, etc. Moi, je connaissais bien ce livre parce que j'ai lu tout ce que Jean Tellet a pu écrire. Qui me plaît beaucoup et qu'on n'ira plus, hélas. Et je disais, oui, mais enfin, c'est pas un film facile à adapter. Il y a un univers très noir, très sombre. Et c'est lui, ce producteur, qui m'a dit, mon idée, c'est de faire ça en animation. Et je me suis dit, c'est merveilleux, parce que j'enfonce une porte ouverte. Mais en animation, c'est pas des vrais gens. Donc, on peut aller très loin dans l'humour noir et tout ça. Et puis surtout, j'ai eu immédiatement l'idée, l'envie... qui me trottait en tête depuis longtemps, de faire un film musical, de faire un film dans lequel il y aurait des chansons, comme pour alléger un peu les choses, même si les chansons racontent des choses vachement tristes, lourdes en tout cas, et suicidaires. Mais c'était... Le projet était bien. Moi, ça m'a vraiment plu, parce que là, pour le coup, on est tributaire de rien. On peut tout faire. On peut mettre la caméra. Il n'y a pas de caméra, mais on peut mettre la caméra où on veut. On se fout pas mal de la météo qui fait. Bien sûr, on est dans un monde virtuel tout à fait formidable. Mais il y a un truc qui m'a manqué terriblement, c'est le tournage. Évidemment, on tourne pas.
L'intensité du tournage.
Oui, l'équipe se retrouver sur un plateau, réaliser les images qui trottent en tête, qu'on a fini. Le tournage, l'exercice du tournage, c'est un truc qui m'a manqué. Mais ce qui ne m'a pas manqué, qui était une expérience assez amusante, c'est la direction de comédiens, enfin de travailler avec les comédiens, parce
que
les comédiens, on les enregistre avant toute chose. Et on cale l'animation sur le jeu. Donc, c'est un peu comme si on faisait une dramatique télé. On se retrouve dans un studio avec des micros, les comédiens ont leur texte sous le nez. Je leur avais montré le dessin du personnage qu'ils allaient interpréter. Et on a joué tout le film comme si on était à la radio, quoi. Et donc là, le travail avec les comédiens, il est très, très amusant à faire.
Alors là, dans la suite, il n'y aura pas de comédien en tant que tel. On en vient à votre incursion dans le monde documentaire. En 2004, vous lancez dans le projet assez fou d'Ogora, Ouvrons les yeux, tourné au Cambodge. Une histoire sans acteur, sans parole, sans scénario. C'est en plus une de vos œuvres les plus personnelles. Tout part d'une musique symphonique, celle d'Étienne Perruchon, qui vous bouleverse et vous inspire. C'est vraiment là...
Oui,
ça part le projet.
Le point de départ, c'est la musique d'Étienne Perruchon. Il avait composé ça pour, une occasion en Haute-Savoie, enfin bref. Et je lui parle de cette musique que j'écoute 150 fois de suite. Et il me dit, vous m'en parlez tellement bien de ma musique que je vous l'offre, je vous la donne. Et j'espère qu'un jour, elle vous inspirera des images. Alors moi, j'étais dépositaire d'un cadeau merveilleux, cette musique que j'adorais, mais je savais absolument pas du tout ce que je pouvais en faire, ce que j'allais en faire. Et bizarrement, au cours d'un voyage au Cambodge, parce que mon frère cadet travaillait là-bas à l'époque, je traînais les mains dans les poches, dans Phnom Penh, et mes yeux regardaient gourmand tout ce monde étrange, fort et intense qui m'entourait. Et allez comprendre pourquoi, la musique de Perruchon est revenue à la surface, et je me suis dit, voilà, c'est ça que je vais faire. Je vais venir ici, au Cambodge, avec une toute petite équipe. Je vais filmer ce que je vois, ce que je sens, ce que je ressens, accompagné par la musique de Perruchon. Il n'y aura pas de commentaires, il n'y aura pas de texte, il n'y aura rien, il y aura juste des images et de la musique, et des sons. quand vous avez un projet pareil, vous allez trouver des producteurs, ils ont intérêt à vous faire confiance parce que, voilà, il se trouve que c'était deux très bons producteurs, Gilles Legrain et Frédéric Brion, avec qui j'avais fait Ridicule, l'aveu de Saint-Pierre, donc on se connaissait, et eux étaient très impliqués, leurs femmes étaient très impliquées dans une action humanitaire au Cambodge, donc ils étaient sensibilisés. Quand je suis rentré de Phnom Penh, ils m'ont dit, on ne voit pas du tout ce que tu veux faire, mais on te fait confiance, vas-y.
Ça devait être angoissant d'arriver avec votre caméra dans un pays étranger en sachant pas exactement ce que vous vouliez filmer. Donc là, il fallait se laisser porter.
J'avais des petits points de chute quand même, des trucs que j'avais repérés, que j'avais vus. Je savais qu'il y aurait une séquence ici. Je savais que... Enfin, au petit bonheur, la chance, oui, c'est très curieux. Et alors là, pour le coup... Il y a quelque chose qui est très... j'étais pas désemparé, mais un peu. Parce que autant tout le reste de ma vie, au cinéma, j'organise des choses et je dis, là, il s'assied là, il fait ceci, il se lève à ce moment-là. Enfin, on décide de tout, ou de presque tout. Alors que là, on décide de rien. Et d'être à ce point à la merci du réel est très excitant et très troublant. Certains soirs, on rentrait, on était quatre pour faire le film. Notre toute petite équipe rentrait à l'hôtel, puis on se regardait, on disait aujourd'hui, on n'a pas fait grand-chose, parce qu'on n'a pas eu la chance d'être au bon moment, au bon endroit. Mais vous savez, quand vous circulez mais à Paris, simplement, il n'y a pas besoin d'aller à Phnom Penh, ou à Rome, ou au Louvre, et que vous regardez autour de vous le monde qui vous entoure, vous voyez une foultitude de choses singulières, originales, mais même si vous êtes à une terrasse de café ou au restaurant ou dans une église ou je sais pas où, peu importe, on voit beaucoup de choses formidables. Si jamais vous voulez enregistrer ces choses avec un appareil photo ou même un iPhone, déjà, vous arrivez trop tard. Le temps de sortir le truc de votre poche, etc., vous arrivez trop tard. Et avec une caméra, c'est pire encore. Parce que on peut pas sortir la caméra pout, comme ça et on peut pas filmer aussi vite que son œil. Et ça,
sacré alors, exercice.
Mais j'ai adoré faire ça. Parce qu'il y avait des soirs où on rentrait à l'hôtel et on se disait qu'on avait fait des choses formidables. Quoi.
Vous êtes rajouté une difficulté supplémentaire puisque vous avez calé le montage, il me semble, sur la musique avec Joël H.
Et pardon, c'est pas une difficulté.
C'était même un challenge.
Étienne Perruchon, la première version de Dogora, elle n'était pas assez longue pour faire un long métrage. Donc, il avait rajouté des trucs parce qu'il avait des partitions qui n'avaient pas été enregistrées. Bref. Donc, on avait 1h20 de musique et Joël H, avec qui j'ai, qui est à la fois mon bras droit, mon bras gauche et qui a apporté tellement à mon travail, elle est monteuse, mais avec un talent inouï, quoi. C'est drôle, une monteuse s'appelle H. Franchement, c'est marrant. Et donc, elle a pu monter sur la musique, et ça a été une aide formidable, parce que, enfin, une aide, le montage qu'elle a fait est prodigieux de sensibilité, mais elle ne pouvait pas monter ses images dans le vide, quoi, sans son, sans rien. Et puis après, la musique n'aurait pas collé dessus. Non, d'avoir la musique avant, ça, c'est formidable. J'ai fait plusieurs films dont... La fissure le pont, par exemple, plusieurs films en me servant de musique de source, de musique existante. Donc là, il n'y a pas de compositeur, il y a un patchwork, un kaléidoscope de musique disparate. Et donc, pour telle et telle séquence, elle a pu monter La fissure le pont sur les musiques existantes. Et c'est, franchement, c'est inappréciable.
Et quand vous avez montré le film à Étienne Perruchon, il a aimé?
Non, il n'a pas trouvé ça bien. Non, oui. Il savait que je faisais ça, il comprenait pas ce que je faisais, mais il me faisait confiance. La confiance, c'est quand même mieux que la méfiance. Hein. Il y a des gens qui ne font que méfiance dans la vie, ça m'énerve. Moi, je fais confiance tout le temps. Je me fais rouler dans la farine souvent, mais je m'en fous parce qu'au moins, j'ai fait confiance. Bref, et je montre le film à Étienne Perruchon, c'était au montage, sur un très grand écran, enfin un bel écran. Et on était que tous les trois, il était là, seul devant l'écran, et Joël H. et moi, on était un petit peu en retrait. Et on lui a passé le film. Il n'avait pas vu l'ombre d'une image, rien, quoi. Il connaissait que sa musique. Et quand ça a été terminé, il s'est écroulé en larmes. Mais de voir ce grand gaillard pleurer, secoué de spasmes, de sanglots. Et il a mis du temps à se remettre de ça. On est parti déjeuner. Et puis il coupait sa viande, je sais pas quoi. Puis d'un seul coup, les larmes lui revenaient. Enfin, c'était... Bon, c'est un homme extrêmement sensible, mais le film lui avait fait un effet ahurissant. Alors, c'est dommage, parce que j'aime beaucoup ce film, qui est très singulier, quoi, évidemment.
Il a tourné dans des festivals.
Mais il a été vu. Bon, ça aurait été bien qu'il soit vu encore davantage. Mais je rencontre des gens qui connaissent ce film et qui l'aiment passionnément, quoi, vraiment.
Patrice Lecomte, vous avez écrit il y a quelques années un livre d'entretien qui s'appelle « J'arrête le cinéma », mais faire des films reste au cœur de vos préoccupations. Vous ne vous cachez pas pour dire qu'il est plus difficile de produire un film aujourd'hui et que certains de vos films, oui, n'auraient pas pu voir le jour aujourd'hui.
Ça, c'est vrai. Quand on a fait ce livre d'entretien avec Hubert Prolongeau, « J'arrête le cinéma », c'était un titre un peu provoquant, simplement pour que les journalistes, si tant est qu'on les rencontre, disent « Comment ça, vous arrêtez le cinéma? Que se passe-t-il ? » Pourquoi tu... Non, c'était pour rire. Mais, alors, pour être tout à fait sincère, j'ai régulièrement eu envie de tout laisser tomber. Des moments de découragement, quoi, parce que c'est un an de travail, un film, plus d'un an de travail, d'écriture, de préparation. Et puis à chaque fois, moi, je m'investis énormément, j'y crois, j'y ai toujours cru, quoi. J'ai jamais fait un film sans y croire. Et donc quand à l'arrivée, le film sort et ne fait pas d'entrée, c'est affreux, quoi. Alors je reste là, à glander sur le canapé, à fumer des clopes en regardant le plafond. Et bizarrement, sans être parano, j'ai l'impression que si je marche dans la rue, tout le monde est au courant alors que les gens s'en foutent que votre film... Non seulement ils s'en foutent, mais ils le savent pas que votre film fait pas d'entrée. Et donc, c'est des moments un peu rudes, oui. Mais c'est devenu difficile de trouver le financement des films aujourd'hui. Moi, je pense vraiment, sincèrement, qu'on est là pour essayer d'inventer des prototypes, quoi. En fait, des prototypes des films qui ne soient pas le 15e film de la même. Et puis les spectateurs, ils aiment bien quand on les étonne avec des trucs différents et nouveaux. Différents, en tout cas. Mais c'est ces films différents qui sont très compliqués à faire, quoi. Mais ne tombons pas dans le fameux « c'était mieux avant », qui est un truc de vieux schnock, mais c'est vrai qu'il y a des films, ça j'en suis absolument certain. Il y a des films que j'ai faits et que je pourrais plus faire aujourd'hui. C'est-à-dire que vous allez trouver un producteur et qui après va essayer de trouver une chaîne de télévision, un distributeur, des Sofica, des partenaires financiers, Canal+ et autres. Et vous dites à ce producteur, voilà, c'est l'histoire d'un petit garçon qui aime bien aller chez le coiffeur parce que le coiffeur est une coiffeuse et qu'elle est plutôt affriolante. Il a ses premiers émois... en regardant au travers de sa blouse, et il se dit, plus tard, je vais épouser une coiffeuse. Bon, et le producteur vous dit, alors oui, qu'est-ce qui se passe après? Il épouse une coiffeuse, oui, qu'est-ce qui se passe? Ils sont heureux. Et quoi d'autre? Rien. Mais ça, on peut plus faire ça aujourd'hui. C'est plus possible. Moi, je m'en fous, je l'ai fait. Mais ça m'attriste de penser, on saura jamais si je pourrais aujourd'hui faire le mari de la coiffeuse. On saura pas, par définition. Mais moi, je pense que je pourrais pas le faire. Et lui, ce film-là et quelques autres, bien sûr, mais c'est dommage, quoi. C'est dommage qu'il n'y ait pas des... Parce que quand on va au cinéma, on voit que les films qui font des succès plutôt inattendus sont des films qui, justement, nous sortent de toutes les conventions du monde. C'est-à-dire qu'il y a... Enfin, quand on voit l'histoire de Suleiman, ou quand on voit Enfant Phare, ou quand on voit la liste d'Emilia Pérez, évidemment... Évidemment, et heureusement, plein d'autres films formidables, c'est des films qui ressemblent à rien. Enfin, qui ressemblent à rien de connu. C'est des films qui inventent, qui proposent autre chose, quoi.
Et qui prennent des risques. Qu'est-ce qui maintient votre créativité en forme aujourd'hui, Patrice Lecomte, pour être justement toujours dans une énergie et ne pas le décourager?
Oh, ça, c'est une question de nature. C'est-à-dire que les moments de découragement, ils sont récurrents. Mais il me submerge pas plus de quelques jours, quand même. quand on tombe de cheval, c'est pas commode de remonter tout de suite à cheval, c'est-à-dire de sortir d'un échec. Moi, j'ai pas quatre films d'avance, j'ai pas quatre projets qui m'attendent. Donc, quand un film ne se fait pas, quand un projet tombe à l'eau, ou quand un film ne marche pas du tout, et qu'on se dit, oh là 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 là, comment je vais retrouver énergie? Ben, énergie, elle se retrouve, parce que je vais quand même pas aller m'inscrire à un club de pétanque ou de Scrabble. Non, il vaut mieux que je fasse des films ou que j'écrive ou que j'avance. Enfin, mais je retrouve, je sais pas d'où elle vient cette énergie, cet enthousiasme. Mais il n'arrive pas à s'éteindre ou à se tiédir. Il y a
une forme d'insouciance, parce que je crois que vous aviez dit à des étudiants d'une école de cinéma, peut-être celle de Luc Besson, j'ai fait mes premiers films avec insouciance, voire une certaine inconscience, et souvent des films où je n'étais pas sûr de savoir faire. Pour apprendre, il faut rester éveillé, c'est ce que vous leur disiez.
Oui, c'est que souvent dans les circonstances de la vie, quand on aborde quelque chose et qu'on dit ça, il n'y a pas de problème, je sais faire, c'est là où on se prend les pieds dans le tapis et on se vautre comme un mollusque. Mais moi, franchement, c'est pas maso, mais j'adore faire des trucs que je suis pas sûr de savoir faire. Bah, ça me maintient très, très éveillé. Bah, faut faire gaffe quand on n'est pas sûr de savoir. Il faut être très vigilant, quoi. Ça me plaît. Oui, vraiment, ça me plaît. Il s'agit pas, c'est pas la notion de prendre des risques en faisant ce nouveau film. J'ai pris des risques de dingo. Non, c'est pas ça. Mais d'aller faire des choses qui déjà vous surprennent vous-même, avec un peu de bol, ça surprendra les gens.
Nous approchons de la fin de cet entretien, Patrice Lecomte. Quand vous regardez dans le rétroviseur, qu'est-ce que vous vous dites ? J'ai eu la vie que je souhaitais, j'ai réalisé mes principaux rêves, ou j'ai encore un mot à dire ?
Non, alors des mots à dire, je continuerai à jeter des coups d'œil dans le rétroviseur, mais si un type comme moi devait se plaindre de la vie qu'il a, ce serait insupportable, quoi. C'est-à-dire que je fais le métier dont je rêvais depuis l'adolescence. Ce métier me rend heureux. Je suis en bonne santé. Je peux continuer à faire quelques films, du moins j'espère, si on me laisse les faire. Mes enfants, nos enfants sont heureux. C'est pas le pays des bisounours, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est le bilan qu'ai-je fait de ma vie, le bilan n'est pas navrant, quoi. J'aurais sûrement pu faire autre chose, faire mieux, bien sûr, on n'a jamais tout bon.
Toujours, oui.
Mais en gros, ça va quand même.
Et si vous aviez une liberté financière totale, on peut rêver, quel genre de film vous feriez ? Est-ce que vous feriez un ultime film ou peut-être d'ailleurs une série ?
Si on me donnait un chèque en blanc, je ferais un film que j'ai en tête, mais je ne serais pas dépensier pour autant. C'est-à-dire qu'un chèque en blanc me donnerait simplement une liberté absolue d'inspiration, de n'en faire qu'à ma tête, mais ce ne serait pas pour tourner le Titanic. Ce serait pour tourner quelque chose de très personnel, de très risqué, de bizarre, et c'est ce que je suis en train de faire. On m'a pas donné le chèque en blanc, mais j'espère en obtenir un jour.
Eh bien, merci beaucoup pour cette voix nue, Patrice Lecomte.
Bah, merci à vous et pour la patience de votre écoute.
C'était À voix nue, réalisation Laurent Polleré, prise de son Florent Layani, chargé de programme Daphné Abgral, une série d'entretiens proposée par Pierre Lorimi, disponible sur franceculture.fr et l'application Radio France.